Voilà, c'est le retour toujours en direct sur Graphite Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour parler de l'actualité scientifique. Faudra un jour qu'on m'explique pourquoi Enrique s'oblige dans l'émission juste avant Vibra SOS de passer des titres comme ça, alors qu'à rigueur il pourrait chanter pendant une heure et il tiendrait l'émission pendant une heure sans problème. Si vous avez la chance de suivre le Facebook Live de Vibra SOS, vous le voyez en train de gesticuler. Je sais pas comment il fait, il doit être crevé en fait au bout d'une heure. Ce qui n'est pas mon cas, parce que alors moi je suis assis, tranquille, derrière le micro avec mes petits articles de science. Et pendant une heure, je vais vous parler d'actualité scientifique. On va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle et de la Lune. C'est un petit peu les deux grandes thématiques de cette émission. Et on parlera de TikTok également, parce que c'est un petit peu dans l'actualité. TikTok, c'est pas nécessairement l'actualité scientifique ou technique, mais c'est peut-être plutôt l'actualité politique ou géopolitique. Nous sommes aujourd'hui le 18 mars. C'est l'invention du premier rasoir électrique en 1931. Ça va faire presque 100 ans qu'il y a un rasoir électrique qui existe. Je pensais que c'était plus récent, en fait, mais non. Et en 2010, le mathématicien russe Grigori Perelman se voit attribuer, avant de refuser, le prix du millénaire pour sa démonstration d'un des problèmes fondamentaux des mathématiques contemporaines. C'est la conjecture de Poincaré. Je vais vous épargner aujourd'hui l'explication de la conjecture de Poincaré, parce que c'est totalement impossible de le faire par la radio, mais en tout cas, lui, il a pu le démontrer, et donc ce mathématicien russe, assez reconnu dans le monde assez fermé des mathématiciens, Grigori Perelman a donc eu ce prix du millénaire en 2010. Naissance le 18 mars 1660 de Philippe de la Hire, mathématicien, physicien, astronome, théoricien de l'architecture français. Vous savez, c'était un peu à l'époque au XVIIe siècle où on parlait, où on touchait un petit peu à tout. Et à l'Observatoire de Paris, il mesure chaque jour pendant une trentaine d'années, plus de 30 ans d'ailleurs, un peu avant le lever du soleil, eh bien il mesure la température, la pression, les précipitations. Il effectue à la demande du roi un bilan mensuel de pluviométrie afin de pouvoir dimensionner et suivre ensuite l'alimentation en eau des grands réservoirs du château de Versailles. Nous sommes dans les années 1680-1710 à l'époque. Philippe de la Hire est donc né un 18 mars 1640. Décès le 18 mars 1856 de Pierre-Nicolas Gerdy, anatomiste, physiologiste, chirurgien, médecin, homme politique français également. Et en fait, ce sont des noms de personnes qui ont été très importantes à leur époque, mais qui ne sont pas nécessairement passées à la postérité. Et donc, du coup, c'est toujours intéressant, par le biais de cet éphéméride, c'est-à-dire la date de la Renaissance ou de mort, de pouvoir se souvenir un petit peu de tout ce qui a été fait, bien sûr, à l'époque 17e, 18e, 19e siècle. Ce sont des grands siècles scientifiques également, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est un petit peu l'occasion, bien sûr, de l'évoquer dans cette émission. 06 95 065 026 06 95 065 026 si vous souhaitez bien sûr réagir en direct exclusivement par SMS. Voilà, j'ai un peu de problème de voix, j'espère que ça va pouvoir durer pendant une heure. Sinon, je fais comme Enrique, je mets des titres et puis c'est tout, je ferai comme ça. On va donc parler un petit peu de TikTok avec cette question, pourquoi il faut se méfier de TikTok ? On a appris que la Commission européenne interdisait à ses employés la présence de l'application TikTok sur leur smartphone. Ils avaient jusqu'au 15 mars pour s'exécuter. Une décision similaire prise également pour le personnel du Conseil européen. C'est la crainte en fait d'une potentielle fuite des données personnelles vers Pékin qui a incité l'institution à prendre cette mesure. Et en fait, c'est pas uniquement en Europe que ça se passe d'un point de vue préventif. Il y a le Canada qui a également demandé à ses fonctionnaires de supprimer TikTok de leur téléphone, alors qu'ils sont généralement figure de proue pour ce genre de décision radicale. Eh bien, ce sont les États-Unis qui ont également ordonné aux agences fédérales de faire en sorte que leurs employés n'aient plus l'application TikTok sur leur mobile. Ils avaient 30 jours pour s'exécuter. Et donc le trafic internet de cette application est également bloqué sur les appareils de l'administration américaine. Alors, pour le reste de la population, TikTok est toujours autorisé. Cette décision, elle a déclenché quand même depuis quelques jours la grogne de ce qu'on va appeler les promoteurs de la liberté de parole et d'expression, qui y voient un petit peu l'équivalent d'une interdiction totale. En France, on le sait, le président de la République, des personnalités politiques, des élus exploite, utilise TikTok pour toucher un public plutôt jeune, bien sûr, public jeune qui est le public cible de cette application. Ils sont assez adeptes de TikTok. Il y a certains parlementaires qui ont même réalisé des diffusions en direct des séances à l'Assemblée nationale avec ce type d'application, c'est dire. Et cela a eu pour conséquence l'interdiction d'utilisation de ce genre de plateforme durant les séances, parce qu'on n'avait pas souhaité diffuser via ce genre d'application les débats parlementaires. Il y a des chaînes qui existent pour cela. Et si TikTok est dans le collimateur des autorités, c'est parce que sa maison mère avait avoué en novembre dernier que certains de ses employés avaient accès aux données privées des utilisateurs et qu'ils avaient traqué des journalistes grâce à elle. En revanche, la firme dément avoir quelconque lien avec les autorités de Pékin. Alors ça, ce sont bien sûr les déclarations officielles. Chacun croira ce qu'il voudra, mais en tout cas, ça reste assez tendu avec cette application TikTok. On est bien sûr dans une situation de tension géopolitique, bien évidemment, notamment entre les États-Unis et la Chine. Et donc, du coup, les applications, quelles qu'elles soient, sont un moyen de pression, bien évidemment, entre tous ces pays. Donc voilà, TikTok qui fait beaucoup parler depuis quelques jours, ce qui montre un petit peu voilà, que les réseaux sociaux ont vraiment une place très très importante au sein de la société. Et donc du coup, ça peut être un très très bon canal de communication, mais aussi de réception et d'utilisation des données personnelles. C'est un sujet qu'on évoque depuis plusieurs années, bien évidemment, et pour l'instant, on est totalement conscient sur le fait que rien n'a été mis en place d'une façon totalement cohérente et efficace. En tout cas, on n'a même pas nécessairement une prise de conscience de tout cela. Toutes ces données balancées sur Internet depuis 15-20 ans, avec des sites de réseaux sociaux comme Facebook ou autres, pour l'instant, il n'y a jamais eu un sujet pris en considération concernant la rétention des données, l'utilisation des données personnelles, qui les achète, qui les reçoit, qui les utilise. Tout ça est un sujet qu'il faudra évoquer un jour dans cette émission, mais pour l'instant, on voit très bien que d'un point de vue politique, on suspend, mais on n'a toujours pas trouvé de solution, bien sûr. C'est Biotine que vous écoutez, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Graphite, eh bien, vous nous suivez en direct sur la page, sur le site internet graphite.net, mais aussi sur la bande FM, si vous nous écoutez, 94.9 dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, bien sûr. On écoute aussi un petit titre parce que c'est de la science, Biotine. C'est aussi un peu de musique avec Gabriel Rios.
Prohibido dar un paso sin lo que te está pasando. Cada loco con su tema, cada cual a su manera, tratando de evitárselo. Y en ese olvido quita tu mundo trágico. Mira que eso duele un montón. Cuando cuento bien y pego un jalón, y uno va bajando y bajando. Alas en tu brazo, muchacho, alas pa' ver, pa' putar. Pase lo que pase, ya tiempo hace que viene sin quemarse. La torre. Ya no eres lo que eras antes.
negra tu naturaleza.
Una fiera y también su presa bailando.
Sin zafarse ver. Y en ese olvido que tal tu instrumento mágico.
Mira que aquel sabe un montón. Eso le pasa de tanto ver al dragón.
Quemando y quemándose.
Alas son tu brazo, muchacho. Ala pa' verlo, oh, pa' volar.
Ojos pa' volar.
La Torre, c'était Gabriel Rios sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis après l'émission hyperactive de VibraSOS sur l'antenne de Graphite, tous les samedis entre 12h et 13h. Biotine, l'émission d'actualité scientifique avec une rediffusion tous les mardis matins à 10h. On va aborder le sujet de l'intelligence artificielle. J'ai trouvé trois petits articles qui abordent ce sujet. Alors, le premier, je n'ai pas d'ordre précis, d'ailleurs, on va commencer par la Roumanie. Le premier ministre roumain, il s'appelle Nicolae Ciuța, il a un petit peu créé la surprise il y a quelques jours en dévoilant un nouveau conseiller honoraire qui est baptisé Ion et il s'agit d'une intelligence artificielle qui a été conçue pour informer le gouvernement en temps réel sur les souhaits de la population. L'intelligence artificielle a été développée par la start-up Humans AI et c'est en collaboration avec des chercheurs et des enseignants. Alors Ion, cette intelligence artificielle, affiche un air futuriste grâce à un miroir utilisant guise d'écran. Cette intelligence donne également ses réponses à l'oral avec une voix de synthèse et elle se commande également avec la voix. Elle est chargée d'analyser les informations disponibles publiquement sur les réseaux sociaux pour déterminer l'opinion générale dans le pays. Et en fait, le nom Ion, ça vient du... c'est l'inverse de Noi, N-O-I, ce qui veut dire nous en roumain, et écrit en miroir. C'est pour ça que du coup, on l'appelait Ion, I-O-N. Alors, en plus des réseaux sociaux, les Roumains pourront également transmettre leurs idées, leurs opinions, leurs doléances pardon, à Ion via un site web dédié ainsi que dans certains lieux physiques. Alors, ils ne vont pas recevoir une réponse de l'intelligence artificielle parce que elle va utiliser des réseaux de neurones profonds pour pouvoir détecter, pour pouvoir hiérarchiser les sujets d'intérêt sur les réseaux sociaux avant de pouvoir les communiquer au gouvernement. Alors actuellement, Ion ne comprend que les informations écrites, mais pardon, excusez-moi, mais ses développeurs comptent la faire évoluer petit à petit et notamment lui apprendre à extraire les données de l'audio et de la vidéo, par exemple pour les vidéos qu'on peut avoir sur TikTok, comme on évoquait tout à l'heure. Alors, si les intelligences artificielles sont capables d'analyser des grandes quantités d'informations, les résultats ne sont pas toujours fiables. Et elles sont notamment dues au fait qu'il y a une tendance un petit peu à, je dirais, halluciner, ou en tout cas à présenter par moments des résultats faux, des résultats erronés, comme les internautes ont pu le constater avec l'utilisation de ChatGPT. J'espère que depuis que nous avons fait cette émission le mois dernier avec ChatGPT, vous l'avez utilisé. C'est assez formidable d'un point de vue technique. Après, d'un point de vue contenu, c'est déjà beaucoup plus discutable, bien évidemment. Et donc, du coup, les informations qui sont transmises par cette intelligence artificielle par le gouvernement peuvent être également mal interprétées, mal un petit peu erronée, un petit peu fausse. Et donc, du coup, il va falloir essayer de vérifier si cette intelligence Yon va être également sujet aux dérives, ce qui serait quand même assez problématique, parce que si le gouvernement roumain prend des décisions à partir d'informations erronées d'une intelligence artificielle, ça devient un peu quand même particulier. Moi, je trouve... Alors, c'est toujours le même sujet. C'est toujours la même chose qu'on évoque dans cette émission depuis des années et des années. D'un point de vue technique, technologique, c'est bien sûr formidable, parce que on voit très bien l'utilisation d'intelligence artificielle qui va permettre justement de pouvoir capter des informations en grande quantité, de pouvoir en restituer une synthèse, plus ou moins juste, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de pouvoir détecter des grandes tendances, on va dire. Ça, d'un point de vue technologique, c'est formidable. D'un point de vue éthique, c'est toujours la même question. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce qu'un gouvernement... Ici, c'est le gouvernement roumain, mais quel que soit le gouvernement, n'a pas des canaux qui ont fait leur preuve depuis des siècles pour essayer d'identifier ce que pense la population de tel ou tel sujet, ou d'identifier des préoccupations, des sujets de discussion au sein de la population. Enfin, on est toujours sur l'idée de pouvoir utiliser une intelligence artificielle qui va gommer de plus en plus un réseau de parlementaires, par exemple, d'élus locaux, d'associations, de syndicats. Enfin voilà, il y a quand même énormément de canaux qui permettent de remonter l'information. Et puis, ne serait-ce que le bon sens également à la base. Et là, voilà, c'est toujours le même sujet. C'est d'un point de vue technologique assez extraordinaire. Est-ce qu'un gouvernement européen, en l'occurrence ici le gouvernement roumain, a besoin de ça pour essayer d'identifier ce qui se passe au sein de sa population ? Je ne sais pas. Et qu'on lui attribue le rôle de... le grade de conseiller honoraire. Je ne sais pas. C'est un avis que je donne. Après, chacun peut avoir son avis, bien évidemment. Mais l'intelligence artificielle, il faut... point trop d'en faux, je pense. D'autres sujets au niveau de l'intelligence artificielle, c'est Google qui a récemment dévoilé les grandes lignes de Bard. Bard, c'est son propre projet de robot conversationnel. Donc, on va pouvoir discuter avec un robot. Et donc, avec Bard, eh bien, Google ambitionne de mieux organiser l'information et surtout de la rendre plus accessible et utile à tous. Et donc, Bard va s'appuyer sur toutes les informations mises à disposition sur le web, là encore, et fournir ainsi des réponses actualisées et contextualisées. Mais ce qui est intéressant, c'est que Google ne compte pas en rester là. Et il y aurait dans ces tiroirs un autre projet. C'est un modèle d'intelligence artificielle compatible avec pas moins de 1000 langues. C'est-à-dire que cette intelligence pourrait traduire 1000 langues et pouvoir ensuite engager la conversation. Alors, Google a déjà annoncé avoir entraîné son modèle de langage sur 12 millions d'heures de paroles et avec 28 milliards de phrases qui couvrent plus de 300 langues. Donc, on est quand même sur une volumétrie de données assez importante, bien sûr. L'objectif étant d'atteindre 1000 langues. Alors, on n'a pas l'échéance, mais en tout cas, c'est un petit peu l'objectif affiché par Google. Alors, il peut ainsi déjà reconnaître cet modèle d'intelligence artificielle. Il peut reconnaître automatiquement des langues courantes comme l'anglais, le mandarin, mais aussi des langues un peu plus rares comme l'arza... c'est encore difficile à dire ça. L'Azerbaïdjan, donc l'azerbaïdjanais. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Quand même une langue qui n'est quand même pas non plus essentiellement utilisé dans le monde, et bien lui, il arrive à l'identifier et à pouvoir discuter avec. Et le processus d'apprentissage du modèle qui est développé par Google s'adapterait de fait efficacement à n'importe quelle nouvelle langue. Alors, c'est un outil de traduction, mais ça peut ouvrir aussi des perspectives assez intéressantes. Cette intelligence artificielle pourrait même à terme être intégrée à des objets connectés, comme des oreillettes ou des lunettes. Un premier voile sur ces possibilités pourrait être levé lors de la prochaine conférence Google qui est prévue en mai 2023. Alors on essaiera bien sûr de suivre l'actualité vis-à-vis de ce sujet, vis-à-vis des nombreux sujets qui va être dévoilé par Google. En tout cas, c'est là encore des projets lancés autour de l'intelligence artificielle et c'est vraiment dans l'air du temps. Enfin, je veux dire, là, on se rend bien compte que ça aborde plein de sujets, bien évidemment. Et du coup, troisième article, concernant l'intelligence artificielle, on peut se demander mais à qui appartiennent les œuvres qui sont créées par les intelligences artificielles ? C'est une question assez épineuse qui se pose quand même depuis un certain temps, et notamment depuis, bien sûr, l'explosion de l'intelligence artificielle accessible au grand public. Alors déjà l'été dernier, la version 3 de GPT avait écrit un article scientifique sur lui-même. On en avait parlé dans cette émission à la rentrée de septembre, avec un article scientifique de parlant de l'intelligence artificielle rédigé par une intelligence artificielle. C'était quand même quelque chose d'assez bluffant, mais aussi d'assez qui interpelle bien sûr. Et il y a un autre outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney qui a remporté lui une compétition d'art. Alors les choses ont rapidement évolué depuis l'été dernier bien évidemment parce qu'on se rend compte on assiste à une déferlante de livres écrits par ChatGPT qui sont vendus sur Amazon et également le premier manga qui a été créé par l'intelligence artificielle qui est sorti au Japon. Aux États-Unis, la Cour d'appel fédérale a décidé l'année dernière qu'une intelligence artificielle ne peut pas obtenir de propriété intellectuelle en son nom, mais quelle est la limite ? Par exemple, Chris Castanova, qui est un auteur d'un roman graphique qui s'appelle Zarya of the Dawn, il avait obtenu le droit d'auteur aux États-Unis, mais le mois dernier, le bureau américain du droit d'auteur a jugé que les images qui étaient générées avec l'intelligence artificielle Midjourney ne pouvaient pas être protégées par le droit d'auteur. Et donc, dans un nouveau document, ce bureau américain du droit d'auteur vient clarifier sa position qui indique que les œuvres peuvent être protégées selon la manière dont l'intelligence artificielle a été utilisée. Dans le cas d'œuvres contenant du matériel généré par l'intelligence artificielle, le bureau américain examinera si les contributions de l'intelligence artificielle sont le résultat d'une reproduction mécanique, dit-on, ou alors d'une conception mentale originale de l'auteur à laquelle il a donné une forme visible. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui a créé tout toute seule, ou est-ce qu'elle a suivi les orientations qui ont été données par l'auteur ? Et donc, du coup, qui est l'auteur dans ces cas-là ? Est-ce que c'est véritablement l'auteur ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? C'est une notion de nuance qu'il va falloir, bien évidemment, préciser assez rapidement. En tout cas, le Bureau américain du droit d'auteur fait la distinction entre les outils utilisés par les artistes, dont les résultats sont attendus, et la génération par l'intelligence artificielle, dont les résultats ne sont pas prévisibles. En tout cas, ça signifie qu'une intelligence artificielle ne peut pas être considérée comme un auteur, mais que les parties de l'œuvre qui sont bel et bien le travail d'un humain sont éligibles au droit d'auteur. J'espère que vous arrivez à me suivre. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué d'un point de vue législatif qu'ils n'arrivent pas nécessairement à trancher. Dans le cas du roman graphique donc Zarya of the Dawn, les modifications et les arrangements de l'auteur sont toujours protégés. Le bureau a également indiqué que toute nouvelle demande de protection par droit d'auteur doit spécifier explicitement si l'œuvre contient des éléments générés par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va le faire à chaque fois ? Je n'en sais rien. Et donc, du coup, on va là encore se poser des questions sur qui est propriétaire de quoi. Je ne sais pas. C'est assez étonnant. En tout cas, on est vraiment sur des sujets éthiques qui nous dépassent totalement parce que on est dépassé justement par la technologie qui, elle, ne s'arrête pas pour se poser ce genre de questions. Et on voit très très bien que on va être, ne serait-ce que vis-à-vis de l'enseignement, est-ce qu'une rédaction rédigée par une intelligence artificielle va déjà être détectable par l'enseignant ? On ne sait pas. Et s'il y a des morceaux qui ont été générés par l'intelligence artificielle, mais que la synthèse globale a été façonné par l'élève, qu'est-ce qu'on considère ? Alors, vous voyez, ça va être des vrais sujets. C'était comme dans l'ancien temps, on récupère aussi des morceaux d'articles ou des morceaux de livres, bien sûr. Enfin voilà, c'est tout ce genre de sujet. On voit très bien que ça. On se rend compte que ça arrive, mais pour l'instant, on n'a toujours pas nécessairement bien tranché. Et vous, quel est votre avis ? Je vous propose d'écouter Mawimbi pour réfléchir à ce sujet, bien sûr. Vous êtes toujours sur Graphite et vous êtes bien.
Pere Coelho. Parei, pedi, brinquei, joguei, zoei com chupis. Aproveitei do pouco, pouco tempo que deu. Quebrei, colei, voei, fugi, não deu. Mudei, saí, saí, saí. Que solução apareceu? De acabar, problema meu. Continuar, pode existir. Por quanto tempo mais vou ter que prosseguir? Se o rap é bom, sei que é pressão. Cola a mão e chama a chamada do meu coração. Palavreado da licença do meu português. Uma lavada liberada é a primeira vez.
Pare de perder tempo. Contra a lala de amor.
Sai, 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 sai.
Tá não, tá não.
Fazendo foto, tá na rede a patrocinar. Mão inferno enquanto dura e perto de acabar. E o sorriso força fake, modo mig. Coleção de fake, sozinho eu consegui. Atravessar de caiada, gosta mais de mim. Há uma lavada liberada em primeiro lugar. Há uma lavada liberada em primeiro lugar. Parei, pedi, brinquei, joguei, zoei com showbiz. Aproveitei do pouco, pouco tempo que deu. Quebrei, colei, voei. Saí, 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 saí.
Pare de perder tempo contra a lala de amor.
Sai, 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 sai.
Amor, c'était Mawimbi sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Et c'est très gentil, merci à vous. Soit sur le 94.9 sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Nous sommes en direct aujourd'hui, donc vous pouvez envoyer vos SMS au 06 95 065 026. 06 95 065 026. On va parler d'espace. Avant de partir, c'est vraiment... Je suis désolé, j'ai un problème au niveau de la gorge. J'espère que c'est pas trop pénible pour vous. Avant de partir sur la Lune, on va quand même commencer à aller dans l'espace et on va parler de Sophie Adenau. Il y a un gradé de l'armée de l'air et de l'espace qui, vendredi la semaine dernière, a dit « On vous la confie, prenez soin d'elle ». À l'Agence spatiale européenne, c'est bien sûr Sophie Adenau qui est lieutenant-colonel, qui va bientôt changer d'employeur en passant de pilote d'essai d'hélicoptère à astronaute au niveau de l'Agence spatiale européenne. Répondant aux questions de la presse lors justement d'une conférence de presse ce fameux vendredi de la semaine dernière, le 10 mars, Sophie Adenau n'a pu cacher sa joie de devenir bientôt une nouvelle élève qui va donc passer des mois voire des années avant de partir en vol, bien sûr. J'ai hâte de retourner à l'école, j'adore apprendre. C'est ce que confie la future astronaute. Alors le début de la formation est censé avoir lieu dans un mois, à la mi-avril à peu près. Et est-ce qu'elle abandonnera sa carrière de pilote ? Pas forcément. En dehors d'une mission en vol ou au sol, eh bien Sophie Adenau pourra bien reprendre le manche, comme le fait occasionnellement Thomas Pesquet en tant que pilote de vol 0G pour Novspace, hein, bien sûr. Alors, au cours de ce point presse, Sophie Adenau revient sur les qualités indispensables pour être astronaute. En tant que pilote, j'ai appris à gérer la communication en groupe, c'est ce qu'elle dit, et ils étaient présents à ses côtés. Il y avait notamment Daniel Schmidt, le coordinateur du programme d'exploration humaine et robotique pour le Conseil de l'Agence spatiale européenne, qui rappelle que derrière un astronaute en vol dans la Station spatiale internationale, eh bien, il y a quand même un millier de personnes qui travaillent. C'est pas nécessairement, ils sont pas présents physiquement dans la station, mais bien sûr, ils sont en lien direct avec cette, avec l'équipage, bien sûr. Et l'astronaute de réserve, qui est Arnaud Prost, était également présent pendant toute la visite. Il ajoute que la patience est une qualité plus que recommandée, qu'il faut toujours imaginer le pire pour mieux réagir, bien sûr. Les qualités demandées, elles tendent toutefois à évoluer. Didier Schmidt rappelle que la promotion d'astronaute auquel fait partie Sophie Adenau, eh bien, cette promotion aura l'occasion de faire des vols lunaires qui nécessitent un certain esprit d'initiative. Pour exemple, Didier Schmidt rappelle que Neil Armstrong avait décalé le module lunaire au dernier moment pour éviter de se poser sur un cratère. Il y a toujours des imprévus, paraît-il, dans l'espace. On veut bien le croire, bien sûr. Alors, la formation de base de l'Agence spatiale européenne va durer 12 mois au centre d'entraînement des astronautes de Cologne, en Allemagne. La promotion est placée sous la responsabilité de l'astronaute allemand Alexander Gerst. Le programme est riche, hein, il y a une introduction à la galaxie. Il y a bien sûr le rôle des agences nationales, des pays membres et des nombreux partenaires. Il y a divers programmes de l'agence européenne. Il y a aussi le spatial d'un point de vue général. Il y a les fondamentaux indispensables, bien sûr, pour le vol spatial. Il s'agit de mettre en commun tous les savoirs et savoir-faire pour des recrues aux spécialités différentes. L'astrophysique, le pilotage, l'ingénierie, la médecine, bien sûr. Et aussi avoir des informations sur comment fonctionne la Station spatiale internationale, comment fonctionnent les vaisseaux. Un astronaute en mission doit connaître tous les fonctionnements et toutes les procédures sur le bout des doigts pour gérer habilement une situation de crise. Il y a plusieurs entraînements pratiques qui sont également prévus. Et seule Sophie Adenau et les quatre autres astronautes de carrière suivront donc cet entraînement de base. Arnaud Prost, qui est lui l'astronaute de réserve, il restera à son poste à la Direction générale de l'armée comme ingénieur d'essai. Toutefois, il commencera à suivre également des cours. Et donc, en plus des cinq, il y a une autre recrue qui se joindra à la formation de base. Il s'agit de Catherine Bennell-Pegg, dont la formation est prise en charge par l'Agence spatiale australienne. Et donc, cette classe, cette promo, elle est 50% féminine. C'est une première dans l'histoire de l'astronautique. Et ça répond justement à une certaine situation qui paraît tout à fait normale. Ce n'est pas un problème de genre pour moi, il n'y a que des critères de compétence, c'est ce qu'explique Sophie Adenau. Alors Didier Schmidt ajoute toutefois que ce n'est pas la même chose qu'en 2009 où Samantha Cristoforetti était la seule femme astronaute de sa promotion. Il souligne aussi que de manière générale les candidatures féminines sont de qualité. Sur un quart de candidatures féminines à la sélection, on est passé à 40% de femmes parmi les reçues. Donc effectivement, elles sont peut-être moins nombreuses, mais en tout cas elles sont au final plus retenues grâce à la qualité de leur dossier, bien évidemment. Donc on suivra bien sûr l'entraînement de Sophie Adenau. Alors on ne sait pas du tout comment elle va gérer un petit peu la communication de cet apprentissage, de cette phase de formation qui va durer quand même un certain temps, bien évidemment. Elle n'est pas prête d'aller dans l'espace, mais on suivra ça parce que bah déjà Cocorisco, elle est française, et aussi parce que du coup on est quand même dans l'ère du temps qui est bien communiqué par les réseaux sociaux pour faire le lien avec le premier article de cette émission. Donc on espère que Sophie Adenau aura le réflexe, bien sûr, de nous faire partager son expérience, et ça, on suivra bien sûr ça en direct sur Graphite. On écoute Anna Bay Savage sur l'antenne de Graphite et on continue à parler. Cette fois, on va aller directement sur la Lune, je vous le promets.
Harry and I'm just like me these 7 years have gone by so quickly. You're happier now than you were with me, but I agree. I also look back fondly. A catch up we can both drive. I've got crow's feet by my eyes. I started and then stopped smoking. I started and then stopped therapy.
C'est la nouvelle playlist. De Graphite sur l'antenne, justement, pour l'émission Biotine. Des nouveaux titres qu'on vous passe dans cette émission. Et c'était Area Narrow de Annabeth Savage sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Alors, on va partir sur la Lune. Pas tout à fait, mais on y arrive. Croyez-moi. On va d'abord parler de Blue Origin. C'est la société de Jeff Bezos qui est dédiée à la conquête spatiale et qui a dévoilé récemment un procédé unique au monde permettant de réaliser des panneaux solaires à l'aide de régolithes lunaires, le tout sans émission de CO2 et sans utiliser de produits toxiques, donc c'est quand même assez intéressant. Et pour cela, Blue Origin a utilisé ce qu'on appelle des simulants de ce régolithe. Alors le régolithe, c'est quoi ? C'est la poussière que l'on trouve à la surface de la Lune. Mais comme il n'est pas possible aujourd'hui de disposer de ressources issues de la Lune, eh bien Blue Origin a dû reproduire en laboratoire des extraits de cette poussière en gardant leur composition et leurs propriétés. Et donc, il a été possible d'obtenir tous les composants d'une cellule solaire par simple électrolyse. Et cette technologie consiste à obtenir des simulants du fer, de l'aluminium, du silicium, c'est-à-dire tous les éléments nécessaires à la fabrication de cellules solaires. Et on utilise ça quand même à 1600 degrés, bien sûr. Et on obtient du silicium, mais un silicium pur, quasi pur, quasi 100% de pureté, ce qui est quand même un exploit. Et c'est justement cette pureté qui va permettre de créer des cellules solaires réellement efficaces. Alors jusqu'à présent, pour rendre ce silicium le plus pur possible, il y a de grandes quantités de produits chimiques toxiques qui étaient généralement utilisés. En fin de compte, ces cellules solaires, elles sont donc fabriquées sans émission de carbone, sans eau et sans ingrédients polluants. Alors l'avenir, bien sûr, l'idée que l'on souhaite, c'est d'exploiter cette poussière lunaire afin de produire des cellules et des panneaux solaires en rendement optimisé, aussi bien sur Terre, mais aussi bien sur la Lune, bien évidemment, avec l'idée d'alimenter en énergie les futures stations lunaires qui seront sur place. Et dans le contexte lunaire, il faudrait cependant prévoir un verre de couverture spécial pour qu'il puisse fonctionner correctement sans s'user très vite, bien sûr, c'est-à-dire on va protéger ce silicium avec un verre protecteur. Cette découverte, elle tombe à pic, parce que la NASA est bien sûr en pleine reconquête de la Lune, hein, on en parle souvent dans cette émission, avec notamment son programme habité qui s'appelle Artemis, qui devra envoyer un équipage sur la Lune en 2025, pour la première fois depuis plus de 50 ans, donc on suivra ça, parce que 2025 c'est quand même demain. Et puis il faut quand même noter que Blue Origin, hein, donc cette société de Jeff Bezos, elle souhaite toujours pouvoir participer à ce projet Artemis avec son nouveau projet d'alunisseur. Donc on suivra ça bien évidemment. Mais en tout cas, fabriquer des panneaux solaires avec de la poussière lunaire, ça semble être possible et c'est une vraie révolution bien évidemment parce que ça a des avancées assez fantastique, bien sûr. Allez, partons cette fois concrètement sur la Lune. Il y a plusieurs articles qui abordent ce sujet. Alors, le premier, c'est la compagnie Lone Star Data Holdings. Elle est basée à Saint-Pétersbourg et en Floride. Et elle souhaite, ces compagnies, développer un business de la donnée en environnement d'un point de vue lunaire. Alors, qui serait intéressé et pourquoi? En fait, l'idée de cette start-up, c'est de proposer une solution de récupération des données depuis la Lune. Un service de cloud, en fait, qui sert à sauvegarder les données, ce qui serait utile en cas de perte de serveur suite à un accident, une catastrophe naturelle ou une attaque, bien évidemment. Et donc, installer un centre de données sur la Lune, ça peut paraître à la base saugrenu, mais c'est pas dépourvu de sens, parce que quand la NASA a relancé ce programme Artemis qu'on a évoqué tout à l'heure, eh bien sa vision n'était pas seulement d'envoyer des astronautes sur place ou en orbite autour de la Lune, mais aussi de développer une galaxie d'acteurs dédiés en soutien aux missions lunaires. Et ces services complémentaires serviraient aux activités du programme Artemis qui serait directement sur la Lune, mais aussi à développer des services commerciaux. Et donc le programme lunaire de la NASA vise une installation longue et voit un peu la Lune comme une nouvelle zone à équiper pour permettre le bon fonctionnement des missions spatiales. En bref, développer une espèce d'économie lunaire. Mais évidemment, mais l'argent est partout, vous le savez très bien, c'est pas moi qui vais vous faire découvrir cela. C'est un marché et maintenant on va pouvoir s'installer sur la Lune et on va essayer évidemment de mettre en place une économie lunaire, bien évidemment. Et si on suit cette vision, eh bien la NASA, elle a lancé le programme CLPS. L'idée, c'est de soutenir des missions privées sur la Lune en achetant notamment plusieurs vols privés pour déployer des instruments scientifiques à la surface. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne fait pas bon vivre sur la Lune, hein, parce que les équipements ne sont pas à l'abri des écarts de température entre le jour et la nuit. Il fait quand même plus 120 degrés le jour et moins 180 degrés la nuit. Et ça dure chacun 2 semaines en plus. Et si une des missions perd ses données en orbite ou à la surface, eh bien la sonde pourrait les récupérer depuis un de ces fameux centres de données, data center, qu'on pourrait avoir directement sur la Lune, au lieu de se les faire téléverser depuis la Terre. Et donc l'idée, elle est là, c'est-à-dire que comme on a quand même pas mal d'instruments, pas mal d'éléments, d'outils, de machines, et donc pas mal de données qui vont graviter sur la Lune, avoir un centre de données sur la Lune sera quand même beaucoup plus simple, d'après cet article, en tout cas d'après, on va dire plutôt cette start-up, que de stocker les données sur la Terre et comment on fait pour les récupérer par la suite. C'est un sujet que je trouve assez intéressant parce que là, on commence à voir un petit peu une vision de ce qui nous attend sur l'exploration de la Lune par les hommes. C'est pas juste, oui, je pose mon pied, je plante un drapeau et je reviens. Non, là, c'est si je m'y installe, il y a une notion de durée, bien évidemment. Et cette notion de durée, elle va être assez importante et du coup, va mettre en place des solutions et des modes de vie et donc une économie qu'il va falloir, comment dire, essayer de décrire et de pouvoir instaurer par la suite. Et bien sûr, il y a de l'argent derrière. Évidemment, la start-up que j'évoquais, donc Lone Star Data Holdings, elle vient de boucler une levée de fonds de 5 millions de dollars et elle s'apprête à envoyer un premier démonstrateur de data center à la fin de cette année à bord d'une mission et, qui est sponsorisée par la NASA. Et le prototype ne sera donc pas testé au cours de la nuit lunaire, mais en fait, ils vont essayer de, avec cette mission de voir un petit peu la robustesse de ce prototype. Le problème de chauffage sera en partie résolu parce que le data center, il émet beaucoup de chaleur. Donc on se dit il pourra résister aux nuits de la Lune. Je vous disais qu'il faisait quand même moins 180 degrés. Mais comme un data center à la base est quelque chose qui chauffe beaucoup, il ne devrait pas apparemment pâtir de ces nuits glaciales. Nous dit-on, affaire à suivre bien sûr. En tout cas, on voit très bien qu'on est sur des échéances courtes avec donc ce test en fin d'année et l'installation d'un vrai data center cette fois sur la Lune prévue en 2026, comme je vous le dis à chaque fois, c'est demain bien évidemment. C'est ce qui nous attend sur la Lune mes enfants, c'est ça. C'est exactement ça qui va se mettre en place bien sûr. Allez, on écoute un dernier titre dans cette émission et on terminera à parler toujours de la Lune avec des habitations gonflables et des miroirs solaires pour les futurs villages qu'on va avoir sur la Lune. En attendant, on écoute Parquet Courts.
Built of lightning, house of dreams. You were once my girlfriend.
Walking at Downtown Pace, c'était Parquet Courts sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Je vous emmène sur la Lune pour terminer cette émission. On a parlé bien sûr de la mission Artemis de la NASA avec le retour sur la Lune. Et il y a aussi d'autres agences spatiales qui envisagent également de s'y installer de façon durable. Et donc il y a plusieurs concepts d'habitat lunaire qui fleurissent par-ci par-là. Et parmi les projets européens connus, il y a celui de l'entreprise autrichienne Pneumocell. Elle fait le pari de réaliser un habitat lunaire basé principalement sur des structures gonflables et des grands miroirs rotatifs pour utiliser la lumière du soleil. Et ce concept s'appelle Pneumoplanète, pardon, un habitat lunaire qui pourrait accueillir jusqu'à 32 personnes. C'est donc un concept de plus, mais qui semble intéresser l'Agence spatiale européenne. Début 2021, cette agence a octroyé à Pneumocell un financement pour pousser plus en avant son concept et démontrer son intérêt et sa faisabilité. L'étude est donc aujourd'hui terminée et on en sait un petit peu plus. Cet habitat lunaire prévoit donc l'utilisation de structures gonflables pour créer des espèces de serres de 5 à 22 mètres de diamètre, des espaces de vie, des tunnels de connexion entre tous ces modules. Les tours qui vont supporter les miroirs rotatifs seront constitués de tubes en fibre de carbone. Et pour protéger les occupants de ces lieux, les protéger du froid, des radiations et des météorites, eh bien Pneumocell prévoit que ces modules soient recouverts de 4 à 5 mètres de régolithe lunaire, cette fameuse poussière. Donc en fait, ils vont essayer de faire comme un genre de bunker quelque part. Cette couverture devrait assurer un niveau d'isolation thermique, et ce qui permet d'éviter un refroidissement trop rapide de l'intérieur pendant les phases d'obscurité totale. L'habitat devrait fonctionner de manière autosuffisante à long terme, en produisant et en recyclant son propre oxygène et sa nourriture à partir de presque exclusivement l'énergie du rayonnement solaire. L'innovation la plus importante, en fait, elle réside dans ces fameux miroirs qui vont refléter la lumière visible du soleil, tandis que tous les rayonnements de particules nocives seront maintenus à l'extérieur. Cela permettra à la lumière naturelle du soleil de traverser et d'entrer dans les serres. Et donc, ça va être intéressant pour mettre en place le système de photosynthèse pour les plantes. À l'intérieur des serres, Pneumocell est convaincu de pouvoir produire de l'oxygène et de la nourriture de manière autosuffisante et naturelle à partir de la seule lumière solaire naturelle. Alors, sans surprise, Pneumoplanète, excusez-moi, sera construit au pôle sud où la lumière du soleil est abondante étant donné l'inclinaison qui est extrêmement faible de la Lune. Idéalement, cet habitat sera réalisé à proximité d'une région ombragée en permanence, donc vraisemblablement au fond d'un cratère polaire resté dans l'obscurité depuis des lustres, de sorte qu'il devra abriter de grandes quantités de glace, d'eau bien sûr. Alors étonnamment, alors que les bords du cratère Shackleton, qui est souvent suggéré comme site pour pouvoir justement mettre en place un habitat polaire sur la Lune, dans diverses études, c'est un petit peu ce site-là qui est privilégié, eh bien, ça serait apparemment pas un endroit approprié pour ce concept de, comment dire, d'habitation gonflable. Donc, on cherche d'autres solutions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce concept d'habitat se différencie des autres projets par son ambition d'utiliser au maximum les ressources naturelles disponibles sur la Lune. C'est tout le défi, en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer d'amener le minimum de choses de la Terre et utiliser ce qu'il y a sur place, et en particulier à proximité des pôles, tout en minimisant le transfert de matériaux de la Terre vers la Lune, bien sûr. Alors, par rapport à d'autres concepts, Pneumoplanète a l'envisage de présenter, de présenter de loin la charge utile la plus faible par mètre cube de surface utilisable, la protection la plus efficace contre le rayonnement des particules cosmiques et les besoins énergétiques les plus faibles pour le processus de construction et aussi en fonctionnement. Donc c'est quand même des cases qui sont cochées, qui sont assez intéressantes. En outre, c'est le seul concept parmi tous ceux qui ont été publiés jusqu'à maintenant qui offre un cycle écologique complet pour une production autosuffisante de nourriture et d'oxygène. Alors, on sait que le SpaceX sera apparemment capable de transporter tous les éléments de l'habitat, et on sait également que Ariane pourrait également s'en charger. Donc il y a aussi, avoir une solution que l'on peut transporter sur la Lune et ensuite qu'on peut mettre en place et qui puisse répondre à tous ces impératifs de fonctionnement, de protection et aussi bien d'utiliser le moins possible les ressources, ou en tout cas de pouvoir les recycler de façon intelligente, bien sûr. Ce qui va se passer sur la Lune va être formidable, et comme je vous le dis à chaque fois, ça va être une décennie géniale, et on voit très bien que les choses se mettent en place de plus en plus. Ça commence à prendre forme, bien sûr. On suivra bien sûr toute l'actualité de la Lune dans les prochaines émission de Biotine. C'est la fin de cette émission. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine, bien sûr, à 13h, à 12h sur l'antenne de Graphite. Et bien sûr, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer toutes les émissions sur le site internet graphite.net avec les podcasts, bien sûr. Il est 12h59 et 38 secondes. Bon appétit si vous êtes à table. Soyez aussi fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Tout de suite, c'est l'animateur fantôme qui prend la suite. Bonne journée. À bientôt, au revoir.